Du haut de sa montagne, le prophète Balaam bénit le peuple d'Israël. Ayant plusieurs fois commenté l'épisode, je ne reviendrai pas ici sur les circonstances de l'événement. Mais une dernière fois, je voudrais me tourner vers ce chapitre 24 du livre des Nombres, à propos d'une formule de Balaam qui, en vérité, a été au point de départ de mon intérêt pour cette histoire. En faisant l'éloge du peuple élu, le prophète dit ceci. « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. » L'image du jardin au centre de cette phrase n'est-elle pas magnifique? Et d'autant plus intéressante qu'elle est associée à l'image du fleuve. Ainsi, le peuple d'Israël, autrefois, mais aussi, et à sa suite, l'Église, aujourd'hui, est comparé à un jardin près d'un fleuve. Que symbolise ce jardin? Que symbolise ce fleuve? Qu'est-ce que ces images nous apprennent de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu? Avant d'essayer d'interpréter le texte, regardons-le de plus près. Car la traduction « comme des jardins au bord d'un fleuve » n'est pas tout à fait exacte. En hébreu, il est dit, plus précisément, « comme des jardins sur un fleuve ». Chouraki, poétiquement, traduit même « comme jardin sur le fleuve ». Évidemment, cette traduction littérale est un peu étrange. On voit mal un jardin posé sur un fleuve. Et on a préféré dire que les jardins en question sont au bord du fleuve, à côté. Et de même dire que les cèdres, qui sont nommés juste après, sont auprès des eaux. Pourtant, dans les deux cas, c'est une préposition signifiant plutôt « sur » qui est utilisée. Et là encore, Chouraki traduit littéralement « comme cèdre sur les eaux ». Ce qui est assez surprenant, car les cèdres, évidemment, ne poussent pas dans les fleuves, mais plutôt sur les montagnes. Si maintenant nous regardons le texte grec de la Septante, nous faisons des découvertes intéressantes. Concernant les cèdres, le texte grec résout la difficulté en les plaçant au bord des eaux, à côté. C'est la préposition « para » qui est utilisée. Mais concernant les jardins, il a gardé la préposition « épi » qui signifie principalement « sur ». Et concernant le fleuve, il passe du singulier au pluriel. Ce n'est pas sur un fleuve que sont posés les jardins, mais sur plusieurs, sur des fleuves « épi potamon ». Et par-dessus tout, ces jardins sont appelés des paradis. En sorte que la traduction littérale du texte grec serait « Que tes demeures sont belles, Jacob, et tes tentes, ô Israël, comme des paradis sur des fleuves. » Tout cela est un peu surprenant, car un fleuve, à plus forte raison des fleuves, sont en mouvement. On ne plante pas des arbres dans un cours d'eau, on ne sème pas des fleurs dans une rivière, n'est-ce pas ? On pourrait craindre que la plante soit noyée, que la semence soit emportée. Un arbre a besoin de terre, de stabilité. Un jardin sur un fleuve, n'est-ce pas une contradiction dans les termes? Eh bien non, ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe, ce qui est différent. C'est une image qui nous fait réfléchir en nous obligeant à aller plus loin. Bien sûr, dans l'ordre des choses terrestres et naturelles, on ne voit pas de jardin sur les fleuves. Parce que la stabilité, la permanence des plantes ne s'accorde pas avec le mouvement des eaux. Mais dans l'ordre des choses célestes, des réalités spirituelles, ces deux aspects sont mystérieusement compatibles et même inséparables. La vie spirituelle conjugue et unit la permanence et le mouvement. Elle est à la fois un jardin et un fleuve, un enracinement et un déracinement. Une stabilité et un élan. Elle vous rend ferme, mais en vous transformant. Elle vous donne une demeure, un repos, un jardin intérieur. Mais en même temps, elle vous emporte vers l'inconnu, vers l'infini, comme le fleuve s'en va vers la mer. Mieux encore, elle fait reposer ce jardin sur ce fleuve, c'est-à-dire votre stabilité sur votre disponibilité. Votre plus grande force sur votre plus parfait lâcher-prise et votre abandon. Vous l'avez deviné, ce fleuve est l'image de l'Esprit-Saint lui-même. Jésus dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » En s'attachant au Christ, nous recevons l'Esprit. En habitant en lui, nous sommes habités par son esprit insaisissable. En étant fidèles, c'est-à-dire constants, nous sommes traversés par quelque chose qui nous change. Quelle erreur de croire que la vie chrétienne est monotone, qu'elle est un état, un statut acquis une fois pour toutes. Ce n'est pas un état, mais un processus, une aventure, une métamorphose. Le bon vieux philosophe Héraclite disait « On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve ». C'est déjà vrai au plan naturel, puisque lorsque nous revenons à la rivière, ce n'est plus la même eau qui coule. Et d'ailleurs, nous aussi, entre-temps, nous avons changé. Mais c'est encore plus vrai et plus profond au plan spirituel. Celui qui est plongé dans les eaux du baptême, une seule fois, en ressort différent à jamais. Et celui qui reçoit l'Esprit Saint, qui se laisse irriguer par les eaux de son baptême, sera jour après jour transformé. Les fleuves d'eau vive que Jésus a promis nous font découvrir toujours de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. En Christ, quand elle est portée par l'Esprit, notre vie s'élargit, se renouvelle. Elle est un jardin posé sur un fleuve. Elle est un voyage vers l'infini. Nabuchodonosor avait, paraît-il, fait bâtir les jardins suspendus de Babylone, une des sept merveilles du monde. Mais ces jardins-là sont tombés en ruine. Ils n'étaient suspendus à rien d'autre qu'à l'orgueil de leurs propriétaires. Ils ne reposaient pas sur des fleuves. Au mieux, ils étaient à côté du fleuve, au bord de l'Euphrate, d'où on faisait monter l'eau par des vis hydrauliques, par des procédés techniques très compliqués. Nous avons mieux et beaucoup plus simple. Nous avons l'Esprit Saint, fleuve de vie qui coule en nous, qui nous irrigue de l'intérieur, si nous sommes assez humbles pour accueillir son action. Et voici que notre âme se transforme en jardin. Voici que nous habitons déjà le paradis. Les chrétiens ne croient pas au paradis comme à une chose lointaine, ils en goûtent déjà les fruits. Ils ne rêvent pas d'un monde meilleur, ils en vivent dès aujourd'hui. Tel est le parfum dont nous avons été oints dans les eaux de notre baptême. Tel est le fleuve de vie qui habite les chrétiens partout où ils sont dans le monde. Et c'est sur ce fleuve, pas à côté, qu'à travers eux, le monde redevient un jardin.